chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans ce nouveau numéro d'En Spectateur. Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver aujourd'hui en direct depuis le plateau du Théâtre Cantor. Et pour fêter notre 90e émission, nous vous proposons un entretien que nous mènerons à trois, puisque je suis entourée aujourd'hui de Juliette et Colline. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour Marie. Et nous avons avec nous aujourd'hui une invitée, l'actrice et productrice Mathilde Maillard. Bonjour Mathilde.
Bonjour à toutes les trois.
Est-ce que ça te va si on dit actrice et productrice pour te présenter?
Ou tu comprends la question? Oui, je trouve ça toujours difficile de répondre à cette question parce que je pense que c'est quelque chose que je défends un peu, d'être un peu multicasquette à certains endroits. Mais puisque là, on est là pour parler surtout d'un projet, en effet, sur ce projet, je suis principalement comédienne et porteuse de projets. Comme on dit.
Voilà. Ça marche. Tu viens nous parler de « Et on traversera le pont une fois rendu à la rivière ». On va revenir sur le spectacle juste après pour expliquer un peu à nos auditeurs. Et juste avant, tu fais partie de l'Amicale de production. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en deux mots ce que c'est que ce collectif ?
Oui, alors donc l'Amicale de production se définit par comme une coopérative de projets du spectacle vivant. Donc c'est comme une sorte de plateforme. Donc c'est un projet collectif qui réunit toute une petite communauté d'artistes, de travailleurs culturels, comme on dit, donc c'est-à-dire des producteurs, des administrateurs et aussi des techniciens, etc., qui travaillent pour différents projets. Et alors peut-être la particularité, c'est que c'est pas le même fonctionnement qu'une compagnie de théâtre ou que même une boîte de production, c'est-à-dire que l'idée c'est de travailler vraiment au projet. Et donc, mais d'avoir un système de coopération, de mutualisation entre les projets. Et donc, à la base, c'est un regroupement d'artistes qui travaillent plutôt ensemble. Et puis, plus récemment, le projet s'est ouvert aussi à une forme d'accompagnement, de soutien de nouveaux projets, de nouveaux artistes.
Super, merci.
Et donc, le projet dont tu viens nous parler aujourd'hui, c'est « Et on traversera le pont une fois rendu à la rivière ». Donc, on va un peu tenter de résumer ce spectacle pour ceux qui ne l'ont pas entendu ou vu. Donc, c'est l'histoire de Brigade, une jeune femme que tu interprètes, qui est en panne de voiture en plein milieu du massif central, et elle cherche de l'aide. Et au milieu d'un champ, elle tombe sur un tracteur, et dans ce tracteur, il y a Jacques, un agriculteur qui est en train de diffuser la radio des Combrailles, donc sur bande FM. Et Jacques a aussi un neveu, Samuel, qui va surgir de manière un peu inattendue dans le spectacle. Et tout ce petit monde va finalement passer la nuit en plein champ auprès d'un feu de camp. Et seront conviés à ce feu de camp les spectateurs dans la salle qui assistent au spectacle, vraiment dans la salle, mais aussi les auditeurs chez eux. Et c'est bien sûr ça, cette radiodiffusion qui a attiré notre attention en spectateur.
Oui, donc on peut le voir, ce spectacle est d'un type tout à fait particulier puisqu'il joue sur les deux plans, à la fois à la radio et en salle. Et on laisse un des acteurs du collectif nous expliquer ça.
Voilà, donc là, on imagine que je suis quelqu'un et qui est en train d'écouter la radio. J'écoute la radio sur un ordinateur, comme ça se fait souvent. Et ben voilà, donc je suis en train d'écouter la radio. Qu'est-ce que j'écoute à la radio? J'écoute un spectacle qui est diffusé en direct à la radio. C'est-à-dire, au moment où je l'écoute, en fait, le spectacle est en train d'être représenté. Alors maintenant, regardez, on va suivre le chemin de la connexion, du flux audio. C'est-à-dire que là, donc, c'est une allégorie, évidemment. Hein, on imagine que là, on passe par les câbles, par les routeurs, etc., par tout ce qui fait que la connexion fonctionne. Donc là, on remonte le flux audio, en quelque sorte, hein, puisque le flux audio, il vient du spectacle et il va chez les gens. Et puis, on va arriver à un endroit qui est donc celui du spectacle. Voilà, regardez, c'est le spectacle ici. Voilà, il y a des gens qui le font. Hop, voilà, regardez. Hop, ça c'est les gens qui font le spectacle. Alors, et là, ce qui est amusant, c'est que ici, les gens qui sont en train de faire le spectacle et les gens qui le regardent, c'est la même chose. Ils savent bien qu'il y a des gens de l'autre côté qui écoutent le spectacle au même moment. Mentalement, ils vont faire le chemin inverse. C'est-à-dire qu'ils vont repartir dans l'autre sens, comme ça. C'est-à-dire ils vont aller se projeter mentalement chez les gens. Et donc, cet endroit ici, ce canal ici, cet endroit de circulation des flux, eh bien, c'est l'endroit d'un croisement qui se fait entre tous ces gens qu'on imagine qui sont en train de remonter le flux pour aller se projeter là-bas et tous ces gens là-bas qui sont en train de descendre le flux pour aller se projeter de l'autre côté. Eh bien, c'est l'endroit d'une rencontre et puis de frottement et de croisement et aussi de l'établissement d'un certain nombre de boucles empathiques. Voilà, ces boucles empathiques.
Alors, on va parler en premier de ce lien entre théâtre et radio. On est quand même à une époque où il y a beaucoup de pièces qui sont uniquement radiodiffusées. Et là, ce n'est pas le cas de ce que vous nous proposez. C'est un spectacle qui est présenté à la fois dans un théâtre et en même temps à la radio. D'où est-ce que ça vous vient, cette idée, et pourquoi avoir fait ce choix plutôt que vraiment une pièce qui serait intégralement présentée à la radio ?
Alors, bah déjà, c'est rigolo que vous ayez choisi de diffuser ce petit extrait où on entend Antoine Defort, qui ne joue pas dans la pièce, mais qui est un des quatre co-auteurs. Je trouve que ça correspond bien au fait qu'on souvent on a du mal. On dit que c'est un spectacle radiodiffusé quand on communique sur la pièce, mais en fait, c'est, comme vous venez de le dire, c'est un peu faux parce que c'est pas que ça. Mais il n'y a pas vraiment un terme qui pourrait résumer l'expérience qu'on propose. Donc, c'est comme ça qu'on le nomme. Mais en effet, c'est plutôt l'idée d'un petit spectacle à la maison. J'ai oublié quelle était la question. Je suis repartie.
D'où est venue cette idée ?
D'où est venue cette idée ? Alors, vous voulez la version courte ou longue ? Courte. Courte.
Courte, parce qu'on a plein de questions.
Alors, la version courte. C'est un projet, en fait, à la base, on travaillait à quatre sur un autre projet qui s'appelle Collectif Jambes, qui est un projet... On interroge le jeu et la règle de jeu, et même l'énonciation de la règle, de comment est-ce qu'on joue à plusieurs. Parce qu'on est tous les quatre un peu passionnés de jeux, de différents jeux. Enfin, ça va des jeux de société à d'autres types de jeux. Et donc est venue l'envie de réfléchir à un dispositif plutôt théâtral, puisque c'est plutôt de là d'où on vient, où on amènerait les spectateurs à jouer avec nous, à toute une série de jeux, enfin, créer une sorte de jeu de piste, peut-être. Et en fait, sauf qu'on était confrontés à tout un tas de questions qui sont reliées à la participation au théâtre et à l'écriture, la narration dans un dispositif interactif. Et donc, c'est comme ça, petit à petit, qu'on en est venu à l'idée de déporter, en quelque sorte, l'interaction en créant une interaction, mais qui se passerait en dehors du théâtre et donc un peu plus loin de nous, et qu'on ne maîtriserait pas totalement au final, puisque c'est ça qui se passe, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe de l'autre côté, on n'est pas totalement conscient de la façon dont les auditeurs qui assistent au spectacle depuis chez eux réalisent ce qu'on leur propose comme expérience.
Et ça, on y reviendra un petit peu plus tard, oui.
Du coup, il y a cette notion de prise de risque, mais aussi cette notion d'imagination. On l'a entendu dans la bobine aussi, c'est-à-dire que les spectateurs dans la salle imaginent ce qui se passe chez les gens qui écoutent le spectacle, et les gens qui écoutent le spectacle depuis chez eux imaginent bien sûr ce qui se passe sur scène. Et du coup, il y a une espèce de demande d'imagination collective, et je me suis demandé si le fait qu'il y ait une radio dans le spectacle, puisque Brigade tombe sur cette radio diffusée depuis un tracteur, est-ce que c'est un peu une solution justement pour amener cette radiodiffusion que vous souhaitiez pour être en lien avec le spectateur, ou est-ce que c'est venu aussi, ou est-ce que c'était aussi une de vos envies de départ de mettre en scène une radio dans un spectacle ?
Non, en fait, l'histoire fictionnelle est apparue après cette envie de cette idée du dispositif. Et donc, et même pendant longtemps, on n'était pas sûr de justement se laisser attraper par la couche fictionnelle, et on était plutôt dans un truc un peu d'authenticité, de rester dans le brut, le côté brut du dispositif qu'on proposait. Et notre envie était avant tout de proposer un tas d'expériences entre deux groupes d'auditeurs. Mais on s'est aperçu petit à petit que venir déposer ces expériences dans une histoire la rendait plus palpable et venait justement plus nous titiller dans notre imaginaire. Et donc, mais alors il y a une petite métaphore qu'aime bien employer le même Antoine Defort qu'on a entendu tout à l'heure, c'était cette idée de snorkeling fictionnel. Donc c'est le snorkeling, vous voyez, c'est la plongée, mais pas tout à fait. C'est quand on fait de la plongée juste avec un masque et qu'on reste en surface de l'eau comme ça et on regarde les poissons juste avec un masque. Donc c'était cette idée de... On entre dans la fiction, mais pas tout à fait. En gros, on peut entrer dans une histoire tout en restant conscient du dispositif qui est mis en place et du fait qu'il y a un autre groupe d'auditeurs ou de spectateurs qui assistent à la même chose en même temps. Mais donc l'idée, la fiction de Brigade qui rencontre ces deux paysans est venue petit à petit. Évidemment, on y voyait tout un intérêt d'aller-retour entre la fiction et le dispositif. Enfin, c'est une sorte d'image dans l'image, quoi.
Et justement, donc tu dis qu'on ne rentre pas tout à fait dans la fiction, et on a beaucoup cette question de l'imagination, que ce soit du côté des spectateurs dans la salle ou des auditeurs chez eux. On va employer les termes un certain nombre de fois, je pense. Et est-ce que justement l'imagination elle serait davantage contrainte du côté de ceux qui vous voient vous activer sur scène Moi, je n'ai pu que l'imaginer puisque j'ai écouté le spectacle. Mais on a vraiment deux modes d'imagination différents qui se mettent en place. Et je me demandais si vous avez eu des... Enfin, est-ce que vous avez des retours sur ça de la part d'auditeurs ou de personnes qui, à la fois, ont vu le spectacle et l'ont entendu ou...
À part Colline.
Oui. Alors, peut-être on peut aussi préciser déjà qu'il n'y a, a pas d'image, il n'y a pas de vidéo des deux côtés. C'est-à-dire que les spectateurs au théâtre ne vont jamais voir les auditeurs. Et les auditeurs, c'est la même chose. Donc, tout est dans la sujection, dans la projection mentale. Et donc, simplement, les auditeurs sur leur ordinateur ont reproduit la lumière de ce qui se passe, la lumière qui est sur scène, c'est tout. Et donc, du côté des... Enfin, on a plusieurs personnes qui ont fait la double expérience, le double flux. Et on reçoit aussi des emails d'auditeurs à la fin des spectacles, puisqu'on propose à la fin de leur... qu'ils nous envoient des retours et aussi des photos de leur petite cabane, parce qu'à un moment donné, on suggère aux auditeurs, s'ils veulent, de fabriquer une cabane, une sorte de cabane comme on fait quand on est enfant, chez eux. Et j'ai de nouveau oublié quelle était la question, parce que je parle trop.
Non, c'était ça, c'était... En fait, tu as répondu en expliquant ça, c'était qu'il y a peut-être deux modes d'imagination qui se mettent en place, puisque même si on a finalement les mêmes images, parce que tu l'as dit, la lumière... Donc on a, nous, notre écran noir qui devient un peu grisâtre, puis il change un peu, et du coup, c'est ça aussi qui est reproduit sur scène. Donc il n'y a pas davantage de suggestions, en fait, spécialement quand on voit le spectacle dans la salle.
Non, en fait, c'est vraiment quasiment le même flux. Tout le monde a accès à la même, quasiment la même chose, sauf à des tout petits moments où on a des petits décrochages, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y a une écriture un tout petit peu spécifique pour les éditeurs ou pour les spectateurs. Et bien sûr, sur scène, bah, y a ce qui se passe, ce qu'on voit. Enfin, il y a des choses, il y a une scénographie, il y a nous... Et donc il y a une certaine inégalité en quelque sorte, puisque au théâtre il y a les images et puis à la radio on ne l'a pas, mais je pense que c'est pas la même expérience, enfin vraiment c'est pas la même expérience qui est proposée, et les gens qui le font, c'est ce qu'ils nous font comme retour. Donc on suggère en général plutôt aux gens de faire d'abord l'expérience chez eux plutôt qu'au théâtre, d'abord chez eux puis au théâtre et pas l'inverse, mais même si les deux fonctionnent, mais c'est un petit peu comme quand on lit un livre qui est ensuite adapté au cinéma. Souvent, enfin, je sais pas vous, mais moi je trouve ça plus agréable de pas avoir les images quand on lit une histoire, et souvent on peut être déçu quand on la voit. Voilà.
Alors, vous parliez beaucoup de l'idée de créer des boucles empathiques, c'est ce que dit Antoine Defort tout à l'heure dans l'extrait qu'on a écouté. L'idée aussi de faire une connexion silencieuse. Il y a un moment, par exemple, où vous demandez aux auditeurs chez eux d'appeler un numéro, et la personne qui décroche, l'auditeur qui est choisi, le premier à appeler, doit justement ne pas parler dans le téléphone et faire silence, pour qu'on entende le silence qu'il y a entre les gens dans la salle, les acteurs, les actrices, et les gens qui sont chez eux. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, ça, cette idée de créer un lien comme ça?
Bah, je pense que c'était tout l'enjeu de la pièce, c'était de travailler à cette sensation-là d'empathie, de comment est-ce que... j'observe une chose qui se passe, et puis en même temps je peux me mettre à la place de quelqu'un d'autre qui assiste à pas tout à fait la même chose de son côté, et puis que j'ai ça dans ma tête. Bon, en fait c'est on en parle dans le spectacle, c'est cette idée de dissociation, c'est un des principes de l'hypnose notamment, c'est-à-dire que oui, on observe deux choses qui se passent en même moment et que ça nous met dans un état où on peut être soi et en même temps un peu avec les autres. Et donc je pense que c'était tout l'intérêt, pour nous c'est tout l'intérêt du projet, c'était de travailler à ça. Et puis bien sûr, là-dedans il y a plein de choses, il y a le théâtre versus une personne, parce que c'est une expérience qu'on propose à faire plutôt tout seul ou à deux chez soi. Et donc c'est ça, c'est le groupe versus l'individu, cher versus réseau, et ce genre de choses qui nous ont intéressés dans ce projet, ouais.
Mais du coup, il y a le groupe versus l'individu. Et je pense que c'est d'autant plus poignant de le côté de parfois se sentir un peu seul pendant l'écoute, en fait, même de votre spectacle. Parce que la radio, on en a parlé un peu toute la journée, mais c'est aussi un média d'accompagnement. On fait autre chose en même temps. Et du coup, vous réussissez à le maintenir un petit peu. L'auditeur, il faut le maintenir à l'écoute, il faut qu'il reste concentré, parce que pour votre spectacle, l'écoute inattentive, ça marche pas trop. Enfin, on peut
pas tellement juste écouter en lisant ses mails ou en faisant autre chose, parce que c'est vraiment un dispositif un peu immersif que vous nous proposez en faisant des actions aussi.
Oui, en fait, c'est vraiment... Avant tout, c'est vraiment cette idée de petit spectacle à réaliser chez soi. C'est pas comme une pièce radiophonique. Enfin, d'ailleurs, ça se passe pas comme... Enfin, c'est pas on est chez soi, on allume la radio et on tombe dessus. Même si à la base, on aurait voulu pouvoir se servir de ce médium fantastique qu'est la radio pour provoquer cette expérience, évidemment. Mais de fait, on est arrivé à vraiment... au fait que le spectacle commence à une certaine heure et finit à une certaine heure, et puis que c'est vraiment, on convoque le spectacle chez soi, comme, enfin, on a un système d'inscription qu'on a rendu le plus simple possible pour que ça décourage pas les auditeurs. Mais ça, voilà, ça commence à une certaine heure, ça se finit à une certaine heure, parce que c'est cette idée de simultanéité qui fonctionne. Mais ce qu'on a essayé de faire, c'est de mettre en place toute une série de petites choses qui créent une certaine complicité avec les auditeurs. Par exemple, le spectacle commence plus tôt pour les auditeurs. Donc l'auditeur va avoir Sébastien Vial, qui est un autre des co-auteurs de cette pièce, qui avant que les spectateurs au théâtre entrent dans la salle, va proposer aux auditeurs de réunir un certain nombre de matériaux qu'ils vont utiliser pendant la pièce, leur proposer de s'installer confortablement, s'assurer que le son est bien installé chez eux, ce genre de choses. Et puis leur expliquer que ça y est, les spectateurs sont en train d'entrer dans la salle, la lumière se baisse, etc. Et donc, ce qui fait que les auditeurs se plongent vraiment dans cette ambiance du spectacle depuis chez eux, par exemple. Ça, c'est pour donner un des petits exemples. Mais en effet, cette question de l'attention, c'est celle qui nous a le plus préoccupés pour que ça tienne. Et je pense qu'il y a des gens qui décrochent en cours, il y a des gens qui font d'autres choses, mais ça c'est aussi possible, c'est aussi évidemment c'est ce qu'on maîtrise pas. Et on peut pas complètement savoir si les gens sont avec nous du début à la fin, mais on le sait plus ou moins. Et en général, je pense que la plupart des gens suivent quand même du début à la fin.
Alors je pense que quelque chose qui nous a un peu frappé toutes les trois, c'est l'aspect vraiment très créatif du spectacle, qui repose à la fois sur des éléments qui sont peut-être un peu rudimentaires dans ce qui est présenté sur scène, je me fie au témoignage de Colline, et en même temps des moyens techniques qu'on imagine quand même assez importants. Enfin, vous prenez quand même possession de notre ordinateur, moi ça m'impressionne beaucoup. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez comme une contradiction ou comme deux modes de création un peu complémentaires ?
Non, je pense que c'est aussi un des aspects qu'on retrouve aussi certainement dans d'autres projets qui ont été menés à l'amicale de production, dans lequel je ne fais pas forcément partie d'ailleurs, mais c'est cette envie de travailler avec des outils technologiques et en même temps de garder un certain côté artisanat déjà dans la construction, et qu'on sente toujours bien la fabrication des choses, en tout cas peut-être pas que dans l'artisanat, mais qu'on sente bien que c'est nous-mêmes qui avons fabriqué les choses. Je pense qu'il y a une sorte d'esthétique à l'intérieur de ça, et puis aussi cette envie de s'amuser avec les outils de communication. Enfin, les choses dont on parle, c'est beaucoup des couches de langage et de comment on se parle, comment on pense les uns aux autres et comment on fabrique ensemble des objets et comment on en discute, etc. Et donc je pense qu'il y a, oui, il y a toute une dimension sur les outils technologiques et aussi les outils de communication. Et c'est pour ça qu'on s'amuse, par exemple, pour reprendre ton exemple tout à l'heure du coup de téléphone, ce qu'on fait, c'est pas, c'est pas incroyable, c'est quelqu'un qui téléphone au théâtre. Mais on s'amuse avec ce que ça peut produire, revisiter un petit peu cette couche sensible qu'on oublie parfois. Et puis, par ailleurs, il y a en effet quand même certains aspects techniques qui sont un peu plus complexes. Et ça nous a bien excité de travailler sur certains enjeux. Par exemple, on a travaillé avec trois développeurs quand même pour développer toute la partie plateforme de la web radio, qui n'est donc pas qu'une web radio, puisqu'il y a du texte, il y a des images qui s'affichent, même si on voulait aussi éviter une esthétique trop techno et que ça reste aussi assez simple dans l'expérience et que l'expérience soit avant tout quand même sonore pour les auditeurs. Je pense que c'était pour nous très important, mais on a travaillé avec trois développeurs parce qu'il y a pas mal de choses qui se mettent en place tout le long du spectacle où, en effet, les auditeurs sont invités à interagir, à appuyer sur des boutons ou à déclencher par exemple des bûches. Le feu de camp dont vous parliez tout à l'heure, c'est les auditeurs qui vont pouvoir le déclencher, donc le bruit et la couleur de la bûche qui s'allume au plateau, ce genre de choses. Et donc ça, on a travaillé avec une super équipe technique, Liven qui travaille au son, qui a développé toute la partie sonore, qui est un sacré truc parce que il y a des sacrés enjeux de son pour travailler au plateau et à la radio en même temps. Et puis Alice qui a développé toute la partie lumière aussi. Voilà.
Et ce travail sur le son et la fabrication incessante, ça donne une ambiance assez particulière à la pièce tout le long. Et justement, on vous propose tout de suite d'entendre un peu de cette ambiance sonore.
Je passe la clôture. Je marche dans l'herbe. Ça monte un peu. Et au fond de la pâture, je distingue un petit bois. Et à la lisière du bois, on dirait qu'il y a un tracteur. Ouais, c'est ça, enfin une sorte de petit engin agricole. Bah, ça doit être un agriculteur qui travaille tout seul au champ, comme on en voit la nuit parfois quand on passe sur l'autoroute. Bon, bah, je vais aller voir s'il peut m'aider. Alors, j'avance encore. Je suis pas très très loin. C'est assez boueux par contre par terre. Et. Tiens, Jean. Ouais, c'est ça, j'entends de la musique. On dirait qu'il y a de la musique qui sort du tracteur. Bon, j'avance encore, je suis plus qu'à quelques mètres. Il y a un type tout seul dans le tracteur.
Et.
Il parle tout seul. On l'entend assez fort. Qu'est-ce qu'il fait? On dirait qu'il parle dans un micro.
Un moment unique à partager entre amis ou à l'occasion d'une sortie entre collègues. Another time, another place. Des paroles de Dire Straits qu'on croirait écrites sur mesure pour notre émission.
Une émission?
Vous écoutez le bruit des combats. Comme chaque semaine, c'est Jacques au micro et je suis très heureux de vous retrouver.
Alors, je voudrais revenir un petit peu le fonctionnement, un peu comment vous écrivez cette histoire, parce que tu as dit plusieurs fois co-auteur. Et en fait, au début du spectacle, pour raconter un peu aux auditeurs, il n'y a pas du tout cette matière fictionnelle dont tu parlais. C'est toi qui marches. Et en fait, vous nous faites entendre que les sons des pas ne sont pas les tiens, mais des pas préenregistrés. Donc, et au fur et à mesure, ça fonctionne par « et si ». Les autres comédiens disent « et si tu marchais sur du parquet ?»« Et si tu marchais au bord d'une route ?»« Et si c'était plutôt une départementale ?» Et en fait, l'histoire se construit comme ça. Et du coup, je voulais savoir si ça s'était construit vraiment comme ça ou si c'était une reconstitution a posteriori d'un début d'histoire.
Non, ça s'est écrit comme ça, très vite. Non, je rigole. Non, c'est pas vrai du tout. Oui, alors, en tout cas, cette idée d'aller pas à pas vers la fiction, et donc ça ne préexiste pas, et qu'au début, on n'est pas des personnages d'ailleurs, enfin on dit Mathilde, Arnaud, Sébastien, oui. Puis petit à petit on se transforme en personnage. Ça rejoint plusieurs choses, ça rejoint cette idée du jeu, enfin. On ferait le jeu de la fiction tous ensemble, c'était quelque chose qui était très présent dès le début du projet. Et puis pour nous, oui, en effet, c'est très relié à cette histoire de co-création et d'écrire à plusieurs. Et donc c'est comme ça qu'on est arrivé à cette envie aussi, parce que, donc comme je vous disais tout à l'heure, c'était pas si clair pour nous qu'il y aurait une fiction. On a un peu lutté longtemps avec ça, fiction versus réalité. D'ailleurs, on avait même convoqué des personnages. On a fait une présentation du projet en cours. On avait tous des t-shirts avec. Il y avait fiction, il y avait réalité, il y avait poésie, il y avait ergonomie. Et puis on discutait entre nous de ce qu'allait être le spectacle. Pendant longtemps, ça a été quelque chose comme ça qui aurait pu être un spectacle plus abstrait au final, plus abstrait au sens où on serait moins entré dans une fiction et tout ça. Je me suis perdue dans ce que je voulais dire. Mais donc par rapport à la co-création, oui, et puis peut-être rebondir aussi sur ce titre aussi, parce que souvent on nous pose aussi la question, et finalement c'est assez relié pour nous, même si le titre a un peu préexisté au spectacle. Donc on traversera, donc il n'y a pas « et », c'est « on traversera le pont une fois rendu à la rivière ».
On s'est rendu compte qu'on a inventé ce « et » depuis le début.
C'est un mensonge qu'on vous raconte. Pardonne. Donc « on traversera le pont une fois rendu à la rivière », c'est un proverbe québécois qui veut dire que voilà qu'on va résoudre les problèmes une fois qu'on aura le nez devant et pas avant, que ça sert à rien de. Enfin, c'est cette idée, voilà, une fois qu'on est au pont, on peut essayer de franchir la rivière. Voilà, et donc c'était un peu la même idée qui nous a traversé, je pense, dans l'écriture collective, c'était d'y aller pas à pas, parce que écrire à plusieurs, ça peut être très lent et très laborieux aussi. Enfin, ça demande plus de temps, parce qu'il y a tout est discuté, tout est mis au pot. Enfin, en tout cas, nous, c'est quand même comme ça quand on travaille à plusieurs. Tout est beaucoup discuté. Alors, on a utilisé plein de méthodes diverses et variées qui fonctionnaient plus ou moins bien. Je pense qu'on avait cette belle idée de parfois utiliser des outils super rationnels pour résoudre la question de comment se mettre d'accord sur des idées, comme des tableaux Excel où on aurait mis des pourcentages de « je suis pour, je suis contre ce truc-là », puis à la fin on a un résultat, puis on dit « bon, bah, ça veut dire qu'on doit faire ça », puis après « bah non, en fait, je suis pas d'accord ». Bon, ce genre de choses. Mais en gros, oui, on a écrit à 4. Après, il y a eu une phase où c'est Antoine qui a un peu plus repris la main, pour des raisons aussi de temps, de temporalité, parce que souvent, le cadre, le calendrier, tout ça ne correspond pas forcément au temps qu'on voudrait avoir pour finaliser une pièce, c'est souvent le cas. Et donc là, il y a Antoine qui a un peu plus pris la main sur l'écriture, parce qu'il fallait qu'on avance plus vite aussi. Et puis après, c'est un projet qui a beaucoup été retravaillé et affiné, et qui s'est réapproprié au plateau une fois que la pièce commençait à exister. Aussi parce que c'est une pièce où il a fallu vraiment avoir les retours des spectateurs et se rendre compte de ce qui marchait ou marchait pas au fur et à mesure où on la faisait. Donc on a eu la chance d'avoir pas mal de séries de représentations. C'est assez précieux, c'est presque jamais le cas, on peut dire, même dans le spectacle vivant, de pouvoir montrer autant de fois un spectacle. Et donc de l'affiner au fur et à mesure des dates. Et donc ça, ça fait qu'on a beaucoup retravaillé, il y a beaucoup de matière qui est née du travail au plateau, et ça en collaboration, donc pas seulement, ça avec toute l'équipe en fait, avec toute l'équipe de création qui était très présente dans tout ce cheminement. Je sais pas si ça répond à votre question, mais c'est jamais évident de répondre aux questions de co-création, parce que...
Mais cette écriture collective, je trouve que ça fait une ambiance particulière, donc au sein apparemment de l'amicale de production, mais aussi dans le spectacle, puisqu'on a l'impression d'une très grande douceur. Enfin, on a parlé de ces boucles empathiques, de cette communauté en quelque sorte d'auditeurs et spectateurs. Et donc on va partir de ces personnages d'agriculteurs qui font de la radio, font des compris, qui ont une histoire un peu incongrue en partie. Et on sent toute la bienveillance que vous avez pour eux et pour leur histoire. C'est très... on nous emmène peu à peu dans leur vie et dans ce qui se passe ici. Et justement, est-ce que vous envisagez dans ce cadre, au sein de l'amicale de production, le théâtre comme un lieu plutôt accueillant, qui ne serait pas un lieu de discorde ou vraiment de mise en tension, mais plus comme un petit cocon et un petit havre de paix où on pourrait réunir des gens qui ne sont pas forcément réunis. Enfin, les auditeurs, on imagine chez eux, mais au final, on ne sait jamais vraiment qui c'est et comment ils se comportent.
Ben, je crois que, en tout cas sur ce projet... Parce qu'à chaque fois, dans les projets de l'amicale de production, c'est toujours des gens... c'est jamais tout à fait les mêmes gens qui travaillent ensemble. Et tout ça, c'est plein de combinaisons différentes. Après, je pense qu'il y a un point commun, ou en tout cas l'envie à chaque fois, de quand on rentre dans un théâtre, de d'abord commencer par s'emparer des outils qui sont à notre disposition, puis de voir comment on s'en sert. Enfin, et c'est vrai qu'on retrouve beaucoup de... Il y a beaucoup de méta dans les projets. Enfin, il y a beaucoup de questionnement à cet endroit-là, mais sur ce spectacle, dans ce spectacle en particulier, c'est un spectacle qui parle du rapport au spectateur et du contrat fictionnel, comme on aimait bien le dire entre nous, c'est-à-dire on avait cette envie de prendre les spectateurs sous le coude et puis de dire « allez, venez, on va faire le beau spectacle ensemble », et je pense que c'est ça aussi qu'on a essayé de mettre en place. Et peut-être que cette bienveillance ou ce côté-là qu'on sent, je pense qu'il y avait cette envie, en tout cas, qu'on sente qu'on avance, que chacun est pris pas à pas dans ce qui est en train de se construire, et que la fabrication, on l'a fait ensemble quelque part, même si l'écriture vient surtout de notre côté. Mais... Et voilà. Et puis il y a se dire que, en fait, un théâtre, c'est quand même un outil incroyable à notre disposition pour fabriquer des choses dans un cadre en dehors du réel. Et donc, qu'est-ce qui est à notre disposition pour raconter des choses ensemble. Voilà, je pense que c'est ça avant tout qui nous animées dans ce projet, dans ce projet-là.
Mais quand tu dis on va faire le spectacle ensemble avec, avec l'auditeur, avec le spectateur, c'est vraiment l'impression qu'on a. Et je dirais même qu'on a aussi l'impression, qui est très agréable, d'un spectacle très honnête avec l'auditeur et le spectateur, dans le sens où vous ne demandez aucun prérequis. Quand tu dis on prend les spectateurs sous le bras, c'est le cas. Tout est expliqué, pas de manière très très didactique, mais vraiment qu'il n'y a aucune possibilité que quelqu'un soit mis de côté parce qu'il n'aurait pas une référence ou quelque chose de ce genre. Et je trouve que c'est très appréciable. Parce que c'est pas toujours le cas. Et donc cette bienveillance, vous l'avez envers vos personnages, mais aussi envers votre public. Et en même temps, vous le considérez vraiment. Et du coup, je voulais te demander si ça faisait partie de tes préoccupations, toi, le fait de parler au plus grand nombre, de pas avoir d'a priori sur son public.
Alors moi personnellement, bah, je pense que en tout cas c'est quelque chose qui me semble super important. Enfin, je pense que c'est en tout cas de mettre tout. Comment, c'est pas facile de répondre à ce genre de questions évidemment, mais je pense en tout cas de considérer les gens qui sont avec toi, à qui tu t'adresses, comme des gens à qui tu as proposé une expérience dont ils vont pouvoir s'emparer. Tout à l'heure, juste avant, j'entendais que ça parlait de subjectivité et tout ça. Enfin, je pense que c'est ça, c'est se dire chacun vient... Le théâtre, c'est un endroit de rassemblement et chacun y vient avec sa propre subjectivité et faire confiance aux gens sur la façon dont ils vont s'emparer de l'expérience qu'on leur propose. Et je pense parfois, il y a des pièces où on oublie un peu, ou je sais pas, il y a un rapport au spectateur qui est d'emblée assez faussé, ou il y a quelque chose comme ça. En tout cas, dans cette pièce aussi... quelque part, il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que c'est aussi ça qui a fait qu'on a dû aussi s'intéresser à cette question-là. C'est que quand on a créé la pièce en janvier 2017, donc il y a déjà un an et demi, sur les premières représentations, en fait, on a constaté que la plupart des gens qui étaient au théâtre ne croyaient pas au fait qu'il y avait des auditeurs chez eux. Et alors ça, c'était aussi notre faute. Hein. Enfin, c'est parce qu'en fait, on s'est amusé beaucoup avec cette histoire de c'est vrai, c'est faux. En fait, au début du spectacle, on commençait... donc je parle au passé parce qu'entre-temps, on a modifié tout ça, mais on s'amusait avec cette histoire de ça, c'est vrai, ça va être faux, dans l'idée de plutôt prouver que ce qu'on fait, c'est vrai. Et en fait, ça fait tout le contraire, parce qu'il y a ce truc où quand les gens rentrent au théâtre, eh bien, hop, tout devient fiction. Donc vous savez, c'est le fameux truc, y a un problème technique, les gens pensent que c'est vrai, ça fait partie de l'histoire. Quelqu'un s'évanouit ou meurt sur scène, on va aussi croire que c'est de la fiction. Et donc ça crée ça, en fait, le théâtre crée ça. Ce qui n'est pas la même chose du côté des auditeurs, je pense qu'il y a quasi personne qui nous a dit « Ah, mais en fait, ça se trouve, vous n'êtes pas au théâtre, et en fait, vous êtes dans une cabine ». En train de faire des bruitages et tout ça. Personne ne s'est posé cette question-là. Enfin, je crois pas. Enfin, personne nous a fait ce retour parce que, on n'a pas le même rapport à la fiction qui s'installe. Donc, le théâtre crée ça. En tout cas, il y a ce rapport. Ouais, on rentre dans une salle. Voilà. Et donc, je pense que, de fait, on s'est retrouvés dans l'écriture à devoir préciser les choses et à devoir bien préciser nos intentions, justement, la façon dont on allait entrer dans la fiction, tout ça, tous ensemble. Et je pense que c'est ça qui a aussi amené cette bienveillance ou le fait qu'on doive tout le temps être en train de faire un petit clin d'œil au spectateur en disant « Là, on est d'accord, hein, c'est vrai, enfin, ça c'est vrai. » Enfin, il y a quelque chose comme ça qui s'est mis en place petit à petit. Et aussi, comme tu viens de le dire, on voulait éviter aussi que ce soit trop didactique parce que c'était pas évident ce côté où on est toujours en train d'expliquer ce qu'on fait puisqu'on s'adresse aussi aux auditeurs qui n'ont pas d'image. On passe beaucoup de temps à expliquer ce qu'on est en train de faire. Et de, au fur et à mesure, de moins en moins, parce qu'on rentre dans la fiction, et donc là, on propose à tout le monde de nous rejoindre, mais on voulait aussi éviter que ce soit trop didactique et que ce devienne un spectacle d'explication. Donc je pense qu'au fait, il y a quelque chose de ce spectacle aussi qui a fait que c'est devenu très précieux, très, très subtil, en fait, comme expérience qu'on propose. Et d'ailleurs, ce qui fait qu'aussi, certains soirs, ça marche moins bien que d'autres dans les expériences qu'on propose à l'intérieur du spectacle. parce que ça peut être un petit peu subtil, subtil dans le sens, je veux pas dire malin, je veux dire dans le sens des sens, quoi, de ce qui est perceptible.
Et justement, donc tu dis que ça peut changer de soir en soir, et on a un peu abordé rapidement la question du risque et du fait que les auditeurs peuvent décrocher sans qu'on le sache. Et alors, donc simplement pour préciser, les auditeurs sont à un certain moment invités à appuyer sur oui, non ou en appuyant sur leur clavier pour répondre à des questions que vous posez, ou simplement pour expliquer un peu le lieu dans lequel ils se trouvent. Et finalement, ça peut être assez risqué. Par exemple, Colline nous a raconté, elle, que le soir où elle avait écouté, quelqu'un avait continué d'appuyer sur « e » pendant que vous parliez, alors que c'était fini. Ou même, quand on a la connexion silencieuse par téléphone, que vous dites bien « d'accord, on va s'appeler, mais vous ne parlerez pas au bout du fil, on va juste faire une connexion silencieuse », on peut très bien imaginer que quelqu'un va parler, et ça vous est d'ailleurs sans doute arrivé, plus que les « e », j'espère. Et du coup, comment est-ce que vous gérez ça, et est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous aviez pensé et qui vous amuse finalement de soir en soir, ou est-ce que parfois ça a pu être gênant et ça peut être gênant ?
Alors en effet, il y a un petit peu plus de risque entre guillemets avec l'appel téléphonique, parce que finalement quelqu'un qui appuierait 12 fois sur E, bon, ça, c'est plutôt drôle qu'autre chose, mais alors c'est vrai, enfin parfois il y a des gens qui sont mis à parler par exemple pendant la liaison téléphonique, mais pas tant. La dernière fois, on a entendu un bébé pleurer très fort. Ou un chien, ça nous est déjà arrivé. Mais on n'a pas vraiment eu de troll, comme on dit. Alors si, parfois, c'est vrai que ça arrive pendant le oui, non, eux. Là, il y a des gens qu'on voit qu'ils n'ont pas vraiment envie de répondre aux questions. Mais en fait, c'est ça qui fait que si on sent justement que les auditeurs sont vraiment présents, qu'on sent qu'ils sont avec nous, parce que je pense qu'on sent l'attitude qu'on a au plateau, la façon dont on réagit, c'est ça qui va faire qu'on sent que l'expérience, elle est vraie. Et parfois, même quand ça répond trop bien ou trop juste, c'est là où on va avoir l'impression que tout est maîtrisé, même peut-être écrit, et qu'il n'y a pas vraiment des gens. Donc en même temps, nous, on espère un peu à chaque fois qu'ils viennent un petit peu provoquer l'expérience. Après, on ne prend pas des... Enfin, disons qu'il n'y a pas vraiment des choses qui peuvent influer sur la narration même de la pièce, ce qui ne peuvent pas nous emmener totalement ailleurs. On peut toujours retomber sur nos pas. Et donc, mais bon, ça a été beaucoup de questions entre nous. Et d'ailleurs, il y a des choses auxquelles on a renoncé. Par exemple, sur les premières représentations, on proposait à un auditeur de nous appeler et de interagir avec nous pour faire la fin du spectacle. Et donc là, on proposait à quelqu'un, enfin la personne avec qui on était en contact, de lire un texte qui serait la fin du spectacle. Et en fait, ça marchait pas. C'était pas très intéressant ni totalement fou non plus. Enfin, ça... Donc on y a renoncé. Mais pour moi, ça reste un endroit de questionnement, je pense, sur ce projet. Mais je crois que finalement, on est allé à un autre endroit avec cette pièce. Donc je pense qu'il y a des niveaux d'interaction. Enfin, voilà. Mais finalement, on est plutôt allé questionner, oui, cette question de l'empathie. On est allé sur le terrain de comment se projeter chez d'autres et tout ça. Et que finalement, je crois qu'il y aura d'autres projets. On va peut-être interroger la participation d'autres manières. Et d'ailleurs, c'est aussi le cas sur des projets qui sont en cours à l'amicale de production. Par exemple, il y a Samuel qui est... donc pas le Samuel dans la pièce, le vrai Samuel qui est une des personnes qui a développé la plateforme web. Il travaille à un projet qui est assez connecté finalement à ce projet du pont. C'est l'idée d'un projet qui se passe... Ça reproduit le cadre des LAN parties. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, les LAN parties.
Non.
Bon, moi, j'en ai jamais fait, mais c'est des sortes de... Les gens, ils viennent avec leur ordinateur, puis peut-être je dis des bêtises, j'espère que non. Et puis, ils font des sortes de jeux en réseau, comme ça. Puis, ils boivent du coca, apparemment. Bon. Voilà, et là, il veut un peu reproduire ce cadre. Et donc, c'est un peu l'idée que chacun vient avec son ordinateur. Et puis, en fait, c'est de revisiter son ordinateur... l'interaction qu'on a avec lui, et puis de créer des sortes de systèmes de communication entre les ordinateurs, ce genre de choses. Et là, je pense que ça va être un autre niveau de participation, justement, entre les gens, par exemple, pour donner un exemple.
Et bien, Mathilde, merci d'être venue jusqu'à Lyon pour nous parler de ce spectacle, donc, qui joue depuis déjà un an et demi, mais c'est pas fini, qui sera rejoué à l'automne prochain. Et est-ce que tu as déjà des dates à nous annoncer si on veut aller le voir au théâtre et si on veut l'écouter chez nous ?
Ben oui, bien sûr. Donc là, on vient de terminer les dates de la saison, comme on dit. Et donc, on va reprendre le spectacle à Lyon.
Oui, voilà.
À la Biennale de la Danse, pour le festival de Biennale de la Danse, qui a lieu tout le mois de septembre, un petit peu partout dans Lyon. Et là, on jouera aux Subsistances. Et donc, les dates, c'est 27, 28 et 29 septembre. Et donc, je ne sais plus à quelle heure, mais bon, on aura le temps de vérifier d'ici là. Je crois que ça joue un petit peu tard, à 21h, quelque chose comme ça. Voilà, et après, on jouera la pièce à Clermont-Ferrand. Donc ça, c'est une collaboration aussi avec la Biennale de la Danse. Et on est content parce que c'est en Auvergne et que la pièce se passe en Auvergne.
Mise en abîme.
Voilà, mise en abîme.
Et alors, si tu veux bien nous rappeler le site internet sur lequel il faut se connecter pour écouter le spectacle, si on n'a pas envie de se déplacer aux Subsistances ou à Clermont-Ferrand et qu'on veut d'abord faire l'expérience sonore.
Oui, c'est ça. Alors, donc vous pouvez vous rendre sur ontraverseraleponttoutattaché.com. Et puis, il y a aussi plein d'informations sur le spectacle et les autres projets sur le site de l'Amicale de production. Et donc ça, c'est... j'allais dire www, comme on dit en Belgique, www.amicaledeproduction.com. Et là, vous pourrez retrouver toutes les dates et tout ça des projets en cours.
Et bien, sachez, chers auditeurs et auditrices, que c'est un très bon spectacle qui donne envie de faire de la radio. Pour nous, c'est déjà le cas. Donc, c'est vraiment un spectacle qu'on vous recommande absolument. Mathilde, merci d'être venue répondre à nos questions.
Merci à vous de m'avoir invitée.
Chers auditeurs et auditrices, il est temps de refermer cet entretien et cet en spectateur. Merci à vous de l'avoir suivi. Il vous a été présenté par Juliette Meul, Marie Lécuyer et Colline Lafontaine. Il sera disponible à la réécoute dès demain.
Ou à peu près.
Et à suivre sur Transistor, Bon baiser de chez Aphrodite, l'émission qui vous transporte sur la belle île de Chypre et plus rapidement qu'en jet privé.
Évidemment, on vous retrouve très bientôt sur transistor.fr pour de nouvelles aventures théâtrales et spectaculaires. Et d'ici là, surtout n'oubliez pas d'aller au théâtre, à l'opéra ou au ballet. Bref, n'oubliez pas de vivre
en spectateur.
Et c'est maintenant l'heure de retrouver Pierre pour son émission Bon baiser de chez Aphrodite en direct.